Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman.
Vous faites peut-être partie des 70 millions de personnes, 70 millions qui ont déjà vu Lupin, la série de Netflix avec Omar Sy. La saison 2 vient de sortir, il y a un garçon formidable qui joue Omar Sy jeune. Il s'appelle Mamadou Haïdara, il a 16 ans et il viendra tout à l'heure nous raconter cette aventure incroyable qui lui est quasiment tombée dessus. Ce sera à 18h35. Avant cela, à 18h15, c'est le professeur Lina, Bruno Lina du Conseil scientifique qui viendra nous parler Covid, alors que certains de ses collègues ne s'en cachent plus. La quatrième vague arrive. Allez, on va dire que le pire n'est pas toujours certain. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce jeudi 24 juin.
Et à la une ce soir, ce coup de théâtre. 6 ans après la disparition de Lucas Tronche, des ossements et des vêtements appartenant sans doute à l'adolescente étaient retrouvés aujourd'hui dans le Gard. Dans ce journal également, des pharmacies sur le point de jeter des doses de vaccins, faute de patients. Et puis on ira bien sûr à Budapest prendre des nouvelles de nos bleus, ceux notamment blessés hier face au Portugal.
La météo Peggy Broche, bonne nouvelle, bonsoir.
Bonsoir.
Puisque demain, on oublie les orages, enfin.
Eh oui, petite pause. Alors, il fera beau sur les trois quarts du pays. Quelques bémols tout de même entre le Jura et l'Alsace, avec encore quelques petites averses très localisées. Sur le nord-ouest, nouvelle perturbation. De faibles pluies sur la pointe bretonne, le Cotentin le matin. Des pluies qui vont gagner les côtes de la Manche l'après-midi. Et ce sera nuageux simplement ailleurs. Et partout ailleurs, du beau temps, surtout près de la Méditerranée. Il fera beau et chaud, de 27 à 30 degrés. Et sinon, ailleurs, de 16 à 25 degrés. Ça reste frais au nord. Et je rappelle que l'heure est toujours en vigilance orange cru.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Il avait disparu en mars 2015 avec son sac à dos et du reste on ne sait que très peu de choses. 6 ans après les faits, on a visiblement retrouvé ce soir le corps de Lucas Tronche, Guillaume Chiez.
Ouais, alors avant d'être totalement affirmatif, il va falloir attendre les résultats des analyses ADN qui vont être pratiquées sur ses ossements. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le sac à dos retrouvé sur place est le même que celui que transportait Lucas Tronche. Idem concernant les lambeaux de vêtements autour des ossements. Depuis 3 semaines, des moyens supplémentaires avaient été déployés à Bagnols-sur-Cèze et ses environs pour tenter de retrouver le corps du jeune homme. Et ce matin, un pompier du Grimpe, un groupement d'intervention en milieu périlleux, a aperçu le sac à dos et des ossements en contrebas alors qu'il escaladait une falaise. L'intervention est toujours en cours dans cette zone très escarpée pour remonter tous les ossements depuis ce plateau qui se situe en contrebas d'un chemin. S'ouvrira ensuite la deuxième partie de l'enquête, tenter de définir les causes de la mort. Pour cela, les anthropologues de la police scientifiques vont examiner chaque os à la recherche du moindre indice qui pourrait expliquer ce qui a pu arriver à Lucas Tronche il y a 6 ans.
Merci beaucoup Guillaume. Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. Autre enquête, elle concerne cette fois cet accident de trottinette qui a coûté la vie à une jeune Italienne il y a 10 jours à Paris. 2 personnes sont ce soir en garde à vue. 2 jeunes femmes, Thomas Proutot.
Oui, toutes les deux âgées de 24 ans et toutes les deux infirmières en activité. Cela nous est confirmé de sources judiciaires ce soir. Elles sont soupçonnées d'être à l'origine du choc lancé sur leur trottinette, mais surtout d'avoir pris la fuite juste après l'impact, alors que la victime gisait au sol, sa tête ayant violemment heurté le bitume. Une amie de la blessée, présente ce soir-là et renversée sans gravité, a pu fournir une première description des suspects. Plusieurs témoins se sont ensuite manifestés à la police alors qu'on apprenait la mort de l'Italienne de 32 ans. Couplée à un minutieux travail d'enquête, ces témoignages ont permis de remonter les 2 chauffardes présumées. Elles ont été interpellés à leur domicile ce matin dans la banlieue est de la capitale. Des perquisitions ont été menées et depuis le début de l'après-midi, les 2 soignantes répondent aux questions des enquêteurs qui tentent d'établir formellement si ce sont bien elles qui ont fui en laissant derrière elles une femme mourante.
Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Il est 18h04. Dans l'actualité également ce soir, cet appel lancé ce matin par Jean Castex, appel à la vaccination.
En déplacement dans les Landes, le Premier ministre a constaté un net ralentissement des prises de rendez-vous notamment.
Les prises de rendez-vous pour la première vaccination sont en décélération. Ça fait 2 ou 3 jours où nous vaccinons en première vaccination 200 000 personnes par jour. C'est trop peu, on a fait beaucoup mieux. Ayez peur du virus, n'ayez surtout pas peur du vaccin.
Le Premier ministre Jean Castex au micro RTL de Philippe de Maria. Moins de rendez-vous, moins de vaccinations aussi en pharmacie. Certaines officines n'ont pas piqué de nouveaux patients depuis plus de 2 semaines. Illustration dans le 17e arrondissement de Paris où vous vous êtes rendu, Vincent Serrano.
Oui, difficile de savoir où se trouve le point de vaccination dans cette pharmacie. Plus d'affiches sur la vitrine, plus de flèches, plus de chaises. Ruben a tout enlevé. La baisse des primo-injections, pour lui, ça fait 2 semaines que ça dure.
Des primo-injections, aujourd'hui, on en fait 0, voire quasiment plus. Fort de la vaccination, on en faisait entre 10 et 20 par jour.
Aujourd'hui, combien de primo-injections ?
Aucune. Les primo-vaccinés l'ont en grande partie été il y a quelques mois. Et maintenant, pour le public plus jeune qu'il faut vacciner, c'est difficile de les convaincre.
Et justement, derrière le comptoir, Lisa, 23 ans, vous n'êtes pas vaccinée. Votre mère, 46 ans, pas vaccinée non plus. Et votre frère, 14 ans, pas vacciné non plus.
C'est bon, on va attendre. La plupart des gens sont vaccinés. Donc, il y a une grosse baisse aussi. Donc je pense que les gens s'inquiètent moins. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, pas d'urgence, non.
Ruben, je vous vois lever les yeux au ciel.
Et puis, il y a tous ceux qui décident de partir en vacances et pour qui ce n'est plus une priorité.
Et l'inquiétude de ce pharmacien, devoir jeter dans les prochains jours, au plus tard la semaine prochaine et au minimum, une centaine de doses de vaccins.
Une centaine de doses de vaccins qui risquent donc de finir à la poubelle dans cette pharmacie. Reportage signé Vincent Serrano. J-3 avant le second tour des régionales et l'abstention pourrait à nouveau battre des records. À peine 36% d'entre vous ont l'intention de voter. C'est le résultat d'un sondage IFOP qui a été publié ce matin. 36% contre 33% au premier tour.
On ne peut pas parler d'une grosse mobilisation. Depuis dimanche, vous le savez, on s'interroge. Pourquoi une telle abstention ? Coup de projecteur ce soir, Amandine, sur les plus jeunes.
Leur apprendre ont-on suffisamment les règles de la démocratie à l'école ? Savent-ils d'ailleurs pourquoi on vote ? Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes allé à la rencontre d'adolescents dans les Hauts-de-Seine.
Oui, on peut peut-être commencer par leur poser directement la question. C'est quoi une élection ?
Les élections, c'est quelque chose qui permet d'élire des gens.
Mais voilà, ça commence plutôt bien pour cet élève de 6e qui a suivi cette année ses premiers cours d'enseignement moral et civique. C'est après que ça se corse. Guilhem est en première et son bilan est plus mitigé.
On nous dit oui, il faut voter, mais c'est comme quand on dit à un enfant oui, il faut se laver les mains avant de manger. Notre prof, il nous a incité à voter, il nous a dit même si vous n'êtes pas content de ne pas s'abstenir de voter vote blanc.
L'abstention, c'est le cœur du problème pour Rim, elle est âgée de 17 ans.
On nous dit pas pourquoi ni qu'est-ce que ça a comme conséquence si on va pas voter. Moi, je sais que mes parents ne sont pas allés voter, par exemple. Ils vont voter que pour les élections présidentielles et jamais pour les régionales, alors que c'est tout aussi important en réalité. On est un peu la prochaine génération et c'est nous qui allons voter prochainement. Et ce serait vraiment important qu'on nous apprenne des choses dessus.
On a vérifié, l'apprentissage du vote, ça apparaît bien sur les programmes au primaire, au collège et au lycée. Le problème, visiblement, c'est plutôt les adultes qui semblent avoir parfois la mémoire courte.
Évidemment.
L'enquête et la démonstration est assez
implacable.
Claire. Merci Alexandre, Alexandre de Saint-Aignan.
Petite pause, dans un instant on va prendre des nouvelles de nos blessés, les blessés de l'équipe de France de foot. Le match a été un peu rugueux hier soir.
Oui, légèrement.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal, Amandine Bégaud et le début aujourd'hui du sommet européen à Bruxelles dans une ambiance pas chaleureuse.
Oui, les 27 se retrouvent dans un contexte particulier. Ces tensions, vous le savez, on vous en parle depuis plusieurs jours avec la Hongrie autour des droits LGBT et ces lois jugées homophobes par beaucoup. Bonsoir Bénédicte Tassard.
Bonsoir.
Le dîner prévu ce soir s'annonce houleux.
Ah, et déjà le comité d'accueil de Viktor Orban est prêt. Bruxelles est pavoisée de drapeaux arc-en-ciel. Le Premier ministre belge affiche un pins aux couleurs LGBT. Et puis il y a Xavier Bettel, le premier ministre luxembourgeois, homosexuel, qui compte bien s'expliquer avec son homologue hongrois.
Être gay n'est pas un choix, mais être intolérant, c'est un choix. Et je serai intolérant avec l'intolérance. Ce sera mon combat aujourd'hui.
Emmanuel Macron, lui, ne désespère pas faire changer d'avis Viktor Orban.
Je défendrai nos valeurs et je dirais qu'aujourd'hui, la loi telle qu'elle est mise sur la table ne me paraît pas conforme à nos valeurs et à ce qu'est l'Europe. Et j'espère que dans ce dialogue, on trouvera aussi un chemin qui lui permettra de porter ce que sont ses priorités, mais en respectant pleinement nos valeurs, et donc de porter lui-même un changement de ce texte.
Mark Rutte, chef du gouvernement néerlandais, va plus loin. La Hongrie n'a plus rien à faire dans l'Union européenne, martèle-t-il. Pour l'instant, Orban ne se démonte pas.
C'est une loi qui défend les enfants et les parents. S'il vous plaît, lisez-la. Ce n'est pas sur l'homosexualité, c'est sur les enfants et les parents. De toute façon, la loi est déjà en vigueur.
Et cette loi sera réellement valable à partir du 1er juillet.
Bénédicte Tassard, spécialiste des questions européennes, ici à RTL. Merci à vous.
La Hongrie encore, où se trouve l'équipe de France de foot. Une séance d'entraînement cet après-midi après le match d'hier soir face au Portugal.
Et on va retrouver sur place Philippe Sanfourche. Philippe, bonsoir. Comment vont nos bleus ?
Écoutez, il cuise un peu, hein, à l'étouffer là, depuis une bonne heure, dans la fournaise du petit stade Nandor. 38 degrés encore aujourd'hui à Budapest. Aucun titulaire hein, sur la pelouse, sauf Karim Benzema qui est venu trottiner un petit peu. Tous les autres récupèrent en salle de soins pour se régénérer. D'ici lundi prochain, ce sont les remplaçants hein, qui s'entraînent en ce moment pour garder un petit peu de rythme dans cette compétition.
Et les blessés, Philippe, on a des nouvelles, Lucas Digne notamment.
Alors c'est plus qu'une incertitude hein, qui pèse sur Lucas Digne, c'est même, on va être honnête, l'attente d'une confirmation officielle d'un forfait pour l'Euro de Lucas Digne qui est en train de passer des examens médicaux complémentaires, mais ce matin le staff médical et le joueur étaient extrêmement pessimistes. Incertitude toujours aussi un peu moins grave, mais au sujet du genou de Lucas Hernandez. Et puis c'est un peu la série noire, parce que là sur les dernières minutes de cet entraînement, on a vu dans un premier temps Marcus Thuram quitter la pelouse se plaignant des adducteurs, et là à l'instant c'est Thomas Lemar qui est sorti boitillant. Donc beaucoup de pépins physiques qui viennent quand même sacrément ternir le tableau, le bilan comptable très bon des Bleus à l'issue de ce premier tour.
Vous allez finir titulaire, hein, Philippe, au rythme où ça va.
On se prépare, mais on a chaud aussi, hein, je vous rassure.
Bon, et si Lucas Digne était forfait, ce serait le deuxième forfait hein, pour l'équipe de France depuis le début de cet Euro, après celui de Dembélé. Merci beaucoup Philippe Sanfourche, en direct de Budapest. Le prochain adversaire des Bleus, on le rappelle, c'est la Suisse. Match lundi soir à 21h, les huitièmes de finale débutent samedi, avec au programme Pays de Galles, Danemark et Italie, Autriche.
La bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et on va continuer à parler foot et calculatrice. Fini les prises de tête et les calculs compliqués pendant et après les matchs de Coupe d'Europe. L'UEFA a en effet décidé de supprimer dès cet été l'avantage lié au but marqué à l'extérieur.
Le but qui compte double, là, c'est fini.
Il comptait double, exactement. Ah. Bonsoir Eric Sulvestro.
Bonsoir.
Un but maintenant, c'est un but.
Oui, Amandine, terminez les épilogues houleux lors des soirées pizza et foot à la maison ou avec des amis, avec votre mari, votre femme ou vos enfants qui vous demande qui a gagné alors que votre équipe favorite mène au score mais est virtuellement éliminée et vous au bord de la crise de nerfs. Le Covid.
J'ai l'impression que vous nous racontez votre vie un petit peu là.
Non mais moi je suis toujours à l'antenne donc je suis pas à la maison donc ça va. Le Covid, les délocalisations et les huis clos ont rendu cette règle de 1965 obsolète, mais pas seulement. En 5 décennies, la moyenne de buts inscrits à domicile en Ligue des Champions est passée de 2,03 buts à 1,55, tant les équipes hôtes en fait étaient tétanisées à l'idée d'encaisser un pion. Comme disent les fouteux. Désormais, ce sera simple, comme une addition de CP. Mais alors, fini les émotions des scénarios complètement fous, comme le City-Tottenham de 2019 ou la campagne mémorable, je sais que vous en souvenez Thomas, de Monaco en 2004 avec les éliminations du Real et de Chelsea grâce à cette règle du but qui comptait double.
Ils avaient perdu en finale contre Porto.
Exactement. Ils avaient éliminé le Real Madrid de Ronaldo, de Zidane, des Galactiques et Chelsea grâce à cette règle qui comptait le but qui comptait double.
Ouais. C'est bon, fini. Finalement, c'est plus normal, non ?
Monaco serait pas allé en finale.
Ouais. Vu de l'extérieur, ça vous aurait beaucoup attristé. Moi, je n'y connais pas grand-chose.
C'est plus simple.
Non, mais c'est plus logique aussi.
Bah, disons que les équipes vont pouvoir jouer les mêmes matchs à l'extérieur et à domicile. Voilà, sans calcul.
Vous continuez sur l'équipe TV ce soir, si vous voulez. Hein non, d'ailleurs, non, ici
non,
même,
bah
vous continuez
non,
ce soir.
Oh.
RTL si vous m'y allez, moi, je viens.
Non, pas du tout. Merci.
20h45, RTL Foot, hein, spécial Euro. Merci.
Merci, à tout à l'heure, Amandine. Le variant indien, le Delta, aurait-il déjà décidé de nous gâcher les vacances, voire la rentrée ? Dans un instant, le professeur Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique, est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il faut faire beaucoup mieux sur les vaccins. Injonction signée Jean Castex, on en parlait à 18h, le Premier ministre qui a déploré la baisse du nombre de premières doses de vaccins injectées chaque jour. Bonsoir, professeur Bruno Lina.
Bonsoir.
Vous êtes virologue et membre du conseil scientifique. Merci d'être en direct dans RTL Soir. Est-ce que vous partagez l'inquiétude, pour ne pas dire l'agacement, de Jean Castex sur la baisse du rythme de vaccination ?
Après, on peut voir les choses de deux façons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a eu jusqu'à présent un rythme très élevé de vaccination. On a tenu des objectifs et même dépassé les niveaux espérés. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que si on veut pouvoir continuer dans la durée à avoir de bonnes nouvelles qui s'accumulent sur le front de la circulation de ce virus, ça ne sera que par la vaccination qu'on arrivera à maîtriser complètement cette épidémie. Donc c'est vrai que on a le sentiment aujourd'hui que finalement, avec le beau temps, avec l'ensemble des signaux positifs, un certain nombre de personnes peuvent penser à tort que l'histoire de cette pandémie est derrière nous. Elle n'est pas derrière nous, elle est encore devant nous. Il y a encore un certain nombre d'épreuves auxquelles malheureusement on va être confronté, et ce variant Delta en est une. Et il est clair que baisser la garde trop rapidement aujourd'hui n'est pas raisonnable et surtout n'est pas souhaitable.
Vous parlez du variant Delta, c'est le variant indien. Hein. Est-ce qu'il est de nature à nous remettre dans la panade, pour dire les choses un peu familièrement ?
Ce qu'il faut bien comprendre, et je pense que justement un certain nombre de personnes n'ont pas forcément compris, on est dans une pandémie. Et une pandémie, ça a une caractéristique, c'est l'émergence d'un pathogène qui va infecter tout le monde. Hein, une pandémie de virus respiratoire, ça infecte tout le monde. Donc, d'ici un an à deux ans, dans la population mondiale, tout le monde aura des anticorps contre ce virus. Seulement, ces anticorps, on les aura soit acquis parce qu'on aura été infecté, soit parce qu'on aura été vacciné. Et il n'y a pas le choix. On ne peut pas n'être ni vacciné, ni infecté. C'est pas possible. C'est forcément soit l'un, soit l'autre. Donc, tous ceux qui sont immunisés, ceux qui sont vaccinés, sont des personnes qui cassent les chaînes de transmission, qui empêchent les autres de s'infecter et qui eux-mêmes se protègent en n'étant pas infectés. Donc on voit tout de suite que la logique qui dit que plus on a de vaccinés, moins on a de risques de voir recirculer ce virus, elle devient une évidence. Et que dans ces conditions, si on veut protéger l'ensemble de la population française et mondiale, et si on veut aller jusqu'à contrôler de façon importante la circulation de ce virus, ce n'est que par la vaccination qu'on y arrivera.
Mais ce variant, chance, oui, allez-y, pardon.
On a une chance formidable, c'est que ce vaccin, et je pense que c'est la question que vous vouliez me poser, ce vaccin, il marche sur tous les lignages de virus qui circulent.
Y compris sur l'Indien, y compris sur le Delta.
Y compris sur ce virus-là, bien sûr, bien oui. sûr. Les premières données qu'on a, qui sont fournies par nos amis britanniques, mais aussi par d'autres, disent que toute personne vaccinée deux doses est protégée aussi bien contre le virus initial que contre celui-ci.
Alors vous nous dites que soit on a des anticorps et on peut se défendre parce qu'on a été infecté, soit on a des anticorps parce qu'on est vacciné. Il y a eu un cluster dans un EHPAD des Landes en cause des soignants qui n'étaient pas vaccinés pour la plupart d'entre eux. Est-ce que le taux de vaccination des soignants aujourd'hui pose problème en France ?
En tout cas, il est insuffisant, puisque si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans cette EHPAD, mais il y a d'autres structures où ça peut arriver aussi. Hein.
Il y a un autre cluster dans le Bas-Rhin, d'Aidevillers, voilà, il y a plusieurs cas aussi.
Oui, et puis il y en a une autre dans PACA aussi, qui a été observée. Et ce que l'on voit à chaque fois, c'est qu'effectivement, le taux de vaccination des soignants dans ces structures est insuffisamment élevé pour freiner la diffusion du virus. Et vous savez, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle le R0, le R effectif, qui est le nombre moyen de personnes infectées à partir du une personne
combien
malade.
On contamine de personnes, voilà, c'est ça quand on est malade.
Voilà, c'est ça. Hein. Donc, initialement, c'était 3. Avec le variant alpha ou britannique, c'est passé à 4,5. Avec ce virus delta ou variant indien, on est aux alentours de 6. Donc, vous voyez que c'est un virus qui a aujourd'hui la capacité de diffuser mieux. Et lorsqu'on est dans un établissement médico-social, lorsqu'on est dans une EHPAD ou lorsqu'on est dans les hôpitaux, ce que l'on sait des virus qui diffusent de façon nosocomiale, c'est qu'ils ont intrinsèquement un R effectif qui est encore plus élevé que dans la moyenne. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 6, mais probablement à 7.
Mais est-ce que ça veut dire, pardon, professeur Lina, dans ces cas-là, qu'il faut imposer la vaccination aux soignants, qu'il ne faut plus débattre du sujet, mais qu'il faut l'imposer? Vous, le virologue, est-ce que c'est votre conviction ?
Moi, ce que je crois, c'est qu'il est extrêmement important que l'ensemble du personnel soit vacciné. Le moyen qu'il faut avoir développé pour ça, c'est pas à moi de le décider. Mais si on peut convaincre sans avoir à passer par une obligation, c'est toujours mieux, parce que c'est important que les gens comprennent pourquoi on vaccine. Et surtout que l'on admette que la sécurité de ces vaccins est aujourd'hui excellente. Donc, quand on fait un rapport bénéfice-risque et qu'en plus, et on sait que le personnel des EHPAD est dévoué vis-à-vis de leurs patients, on sait qu'ils ont envie que tout se passe bien. Et c'est là où, de temps en temps, on ne comprend pas la logique intellectuelle qui dit « moi, j'adore mes patients, j'ai envie de m'occuper d'eux, mais par contre, je ne me vaccine pas ». Quelque part, c'est pas cohérent.
Professeur Lina, Israël, que l'on a présenté comme étant en pointe dans la lutte contre l'épidémie dès le début, voit le Covid revenir et reporte l'ouverture de ses frontières aux touristes au 1er août. Le Portugal a repris des mesures le week-end dernier. La Russie s'inquiète d'une situation explosive. Le Brésil fait face à une troisième vague catastrophique. Il y a eu plus de 500 000 morts là-bas. Votre collègue Karine Lacombe voit déjà la quatrième vague arriver en France. Est-ce qu'on est vraiment en train d'en sortir? Est-ce qu'on est sûr qu'on est, avec la vaccination, avec tout ça, sur une pente descendante, ou est-ce que quand même on n'est pas à l'abri d'une très mauvaise surprise cet automne ?
Ah ben, c'est très difficile de prédire l'avenir, vous le savez. Hein. Mais en pratique, on a tellement d'atouts dans nos mains aujourd'hui que c'est désespérant, en quelque sorte, de voir qu'on ne les utilise pas. Les atouts que l'on a, c'est qu'on est avec un niveau de circulation très bas. On connaît ce virus, on sait comment il se transmet, on sait quelles sont les situations qui favorisent la transmission. On sait aussi qu'on a un vaccin qui marche très bien. On sait qu'on est dans des conditions climatiques aujourd'hui qui sont plutôt favorables, mais qui n'emporteront pas tout. C'est-à-dire que, et c'est ce que nous montre le Portugal, quand vous avez une introduction massive du variant variant Delta, du variant indien, ça ne freine pas suffisamment pour ne pas développer une épidémie. Donc si on ouvre toutes les barrières aujourd'hui et qu'on ne se vaccine pas plus, on part dans le mur. C'est une évidence. Donc cette épidémie, on la vit depuis un an et demi, on a quand même appris beaucoup de choses. On est dans un contexte beaucoup plus favorable qu'au printemps de l'année dernière, ou même quand est apparu le variant britannique, qui peut ressembler un petit peu, cette émergence peut ressembler un petit peu. Mais si on continue à porter un peu le masque, si on continue à éviter de s'entasser tous dans un même endroit sans être vacciné, si on respecte les protocoles sanitaires et si on se vaccine, il n'y a aucune raison qu'on passe un mauvais été. Et il est aussi parfaitement possible, mais c'est dans nos mains, que la rentrée se passe pas sans une épidémie, mais avec une circulation qui est gérable et qui provoquera pas de nouveau de la pression sur le système de soins.
En clair, vous nous dites que nous avons notre destin entre nos mains. C'est à nous de décider.
Depuis le début, on a le destin entre nos mains. Et c'est les comportements individuels qui entraînent finalement une protection collective. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de se vacciner.
Merci beaucoup, professeur Lina, d'avoir été en direct de Lyon avec nous. Merci également à Raphaël Vantard, qui était à vos côtés pour la réalisation de ce duplex. Merci beaucoup. Dans un instant, l'œil de Philippe Cavrivière.
Bonsoir, Philippe. Ça ne vous a pas échappé.
Vous êtes dans la thématique. Hein, aujourd'hui, Jean Castex était en visite dans les Landes, fortement touché par ce variant indien, dit le variant Delta.
Oui, le Gaulin de Matignon a mis son petit point rouge sur le front, enfilé son sari. C'est le variant indien. Bon, un peu facile, mais c'est la fin de saison, on est crevé. Donc il n'y a plus que 1600 patients en réanimation à cause du Covid. Attention, j'ai maté 50 minutes inside. L'Area n'est plus la destination tendance pour les vacances. Elle repasse derrière Saint-Tropez, Mykonos et Ibiza. Donc bon, je déconseille l'Area.
Vous déconseillez, c'est un bon conseil que vous donnez pour
conseil
une fois.
Conseil vacances.
Hein, pour une fois. Dans un instant, ce sera le rappel des titres. Et puis on sera avec Omar Sy, jeune. Autrement dit, le comédien qui joue Omar Sy dans la série Lupin. Et il s'appelle Mamadou Haïdara. Il a 16 ans, il est formidable.
Thomas Soto, RTL Soir.
18h27, on est un peu en avance, mais c'est quand même
avec Thomas Soto.
Le rappel des titres d'Amandine Bégaud.
Et elle a eu ce rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Lucas Tronche. C'était en mars 2015. 6 ossements et des vêtements ayant pu lui appartenir ont été retrouvés aujourd'hui dans le Gard. Âgé de 15 ans à l'époque, l'adolescent avait quitté son domicile pour se rendre à la piscine. Il n'y est jamais arrivé. Dans l'actualité, également 2 personnes en garde à vue après l'accident de trottinette qui a coûté la vie à une jeune Italienne à Paris. C'était il y a 2 semaines. Il s'agit de 2 jeunes femmes. Et puis J-3 avant le second tour des régionales et un ancien président s'en mêle ce soir, Nicolas Sarkozy, qui apporte son soutien au président de la région PACA, président sortant, Renaud Muselier. Il met en garde la droite contre la malédiction de la division. Fin de citation.
La météo, Peggy Broche, en campagne électorale, qui nous dit ça ira mieux demain.
Oui, exactement.
On a une promesse.
Eh ben oui, parce que c'est vrai, en plus, avec de belles éclaircies du sud-ouest au nord-est. Pour une fois que ça va mieux, on en profite. Très ensoleillé, même près de la Méditerranée. Un peu plus mitigé ailleurs. Il y a toujours un peu de bémol là-dedans. Entre l'Alsace et le Jura, il restera quelques petites averses. Une nouvelle perturbation également concernera le nord-ouest, avec beaucoup de nuages et quelques averses sur la pointe bretonne et le Cotentin le matin, le long des côtes de la Manche dans l'après-midi. Le tout sous des températures, c'est vrai, encore fraîches au nord, mais plus on ira vers la Méditerranée, plus il fera chaud. Le 16 à Brest, à 30 à Nîmes, 21 à Paris, 24 à Lyon, 25 à Bordeaux. Et notez que la vigilance orange crue a été levée sur le département de l'Eure.
Eh bien ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Peggy. L'œil de Philippe Cavrivière. Oui,
tout à fait.
Comme chaque mardi, comme chaque jeudi. Ah, il y a Victor de Vincent qui pose une question qu'on entend dans le micro.
Non, ça va non.
Vous avez un souci, Victor? Philippe, on revient avec vous sur cette passe d'armes entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Les deux ministres auraient failli en venir aux mains.
Oui. Ah, excusez-moi, ça me lance au niveau du tibia. J'ai pris un tacle hier glissé par Valérie Trier-Veller. Oh putain, ça fait mal. Hein.
Ah, oui, oui.
Oh, vous avez revu la VAR, il y avait carton jaune pour moi. Enfin, vous disiez, Thomas.
Non, je disais donc Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin ont failli se battre eux aussi.
Ah bon ? Dupond-Moretti aurait mauvais caractère. Oh, je ne peux pas vous croire. Oh, c'est un gros nounours. Alors, on le savait, Gérald Darmanin n'est jamais contre un petit corps à corps avec une personne qui porte des robes.
Oh non.
Cela dit, Gégé la malice en vient aux mains avec un homme. Et ça, c'est un progrès. Mais on ne s'attendait pas à un tel duel. Le shérif Darmanin a provoqué en duel Éric Dupond-Moretti. Darmanin, il y a un ministre de trop dans cette ville. Alors attention quand même, Gérald, entre toi et Dupond-Moretti, c'est un peu le chihuahua qui veut casser la gueule au Rottweiler. C'est fou ce manque de lucidité. Vous avez déjà vu ça dans les rues? Les chiens ne sont pas lucides. C'est oui, toujours c'est le vrai. Jack Russell, c'est le vrai. Yorkshire qui veut défoncer le pitbull.
C'est vrai.
On dirait Thomas quand il interviewe un ministre. Bah oui, voilà. Ça va mal se passer. Il est trop petit.
Bah oui, c'est pour ça qu'après, hop, comme les petits chiens, je me barre en courant. Philippe, vous allez nous parler du second tour des régionales, parce que ça, c'est un sujet qui vous concerne.
Oui, alors bien obligé, même si 72% de nos auditeurs en ont sûrement rien à foutre, si j'en crois le temps d'attention. Puis la pire nouvelle des régionales, je me suis renseigné, il y a un second tour. En tout cas, les temps sont durs pour nos amis du Rassemblement National. Entre les résultats du premier tour, le doublé de Karim Benzema hier et Blanche-Neige qui sera jouée par une métisse, n'est-ce pas ? On vit une sale semaine à Fréjus.
Vous êtes en pleine forme. Hein. Bon, ça dit, vous avez entendu que Marine Le Pen a tenté de remobiliser ses troupes.
Et vous faites bien d'utiliser la terminologie militaire parce qu'elle a poussé la gueulante, Marine n'est pas contente. On écoute.
Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser. Relève-toi, allez, nom de Dieu, debout. Sors de ta connerie, sacré bon Dieu. Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou.
Dis donc, vous étiez en
CN. Elle mue un peu quand elle s'énerve, Marine. Bon, le Rassemblement National a un problème de positionnement. On lui reproche de s'être assagi. Le Front National, c'était l'extrême droite en Rangers, tandis que le Rassemblement National, c'est l'extrême droite en Birkenstock. C'est plus summer, c'est plus détente. Mais moi, je pense que Marine Le Pen, elle peut gagner la présidentielle. Si les supporters de foot hongrois peuvent voter chez nous. Voilà.
Ah ben, très bien.
S'ils voteront pour elle, ça c'est sûr.
Ça nous fait une très bonne transition, parce qu'on va parler de l'UEFA qui a refusé d'éclairer le stade de Munich aux couleurs de l'arc-en-ciel LGBT. C'était pour le match Allemagne-Hongrie d'hier soir.
Oui, l'UEFA était aussi courageuse que mes deux chats pendant mon cambriolage. Ils sont planqués sous le lit, l'UEFA. Le hongrois, on va le dire, hein, il n'est pas vraiment gay-friendly. L'écriture inclusive, c'est pas pour tout de suite. La tournée de Mylène Farmer ne passera pas par Budapest. Viktor Orban ne chantera pas « Je suis libertine, je suis une catin ». Budapest qui est toujours en Hongrie. Vous avez vu ces six supporters bleus qui ont raté le match contre la Hongrie. Car ils sont allés à Bucarest.
Eh oui.
Au lieu de Budapest.
Eh oui,
alors
moche.
Tout le monde dit qu'ils sont trompés de ville, ils sont surtout trompés de pays quand même. Bucarest, c'est la Roumanie,
c'est
toujours.
Hein.
Alors c'est sûrement des fans de Karim Benzema, parce qu'on ne on parle pas assez de la dyslexie dans le monde du foot, et c'est un vrai handicap, la dyslexie. Moi, j'en parlais avec notre PDG Régis Avayanas. Je parlais de l'équipe. On parlait de Julia Colmou et d'Amandine Bédot. On parlait aussi de Peggy Loche et de Thomas Sodo. Et Réglis Avayanas me disait je prouve l'équipe morfidable. Morfidable, oui. L'équipe.
Thomas Sodo, on ne l'est pas fait depuis le collège. Hein,
non, j'imagine bien. Ouais.
À propos d'équipe, on va dire un mot sur le match des Bleus. Donc, il y a eu match nul de partout contre le Portugal hier.
Alors, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce n'était pas un match nul. C'était un très beau match des Portugais qui méritait de gagner. Alors, techniquement, ils étaient au-dessus. Et puis, l'intelligence de jeu des Portugais. La finesse,
c'est pas des Portugais.
Mais même esthétiquement, le maillot portugais est magnifique. Alors, le carmin de ce maillot et l'hymne portugais. L'hymne portugais est sublime. Alors, ils auraient pu nous écraser, ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est la générosité légendaire du portugais. La générosité. J'en fais trop, Thomas,
ouais,
vous
un,
le dites.
Un poil.
Bref, le doublé de Karim Benzema a signé la fin de l'Euro pour, on va le dire, pour Olivier Giroud. Il n'aura plus. Olivier, tu nous as quittés hier soir, dans ta 35e année. Une messe à la mémoire d'Olivier Giroud sera célébrée par le père Didier. Louange à toi, Dieu les choux.
Ça s'aggrave.
Bon,
ça s'aggrave beaucoup quand même. Sans transition, un rapport de l'ONU nous alerte sur le climat. L'humanité pourrait bien. Donc vous,
ouais,
moi,
ouais,
nous,
tous,
on pourrait
ouais.
ne pas s'en remettre.
Thomas, c'est la cata. On est foutu et à ce propos, je me disais...
Je dis que ça serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois de nos sens.
Bah oui, on est vacciné, on est entre adultes consentants.
Philippe, c'est dans l'hémisphère sud les catastrophes.
Ah, c'est chez les pauvres.
Oh,
oh bah dites-le. Oh, bah, il fait peur pour rien. Les pauvres, ils ont l'habitude de morfler. Nous, on n'est pas habitués, dis donc. Bon, je suis rassuré.
Avant de se quitter, vous m'avez confié que vous receviez beaucoup, beaucoup de questions au sujet de votre fameux cambriolage. Et donc, vous avez décidé d'offrir aux auditeurs et RTL, qui n'en demandaient pas tant, une interview exclusive. Et alors, de qui? Non, il est venu avec ses chats.
Ouais,
de qui donc?
Mais il a grandi, le
Ça leur a demandé beaucoup de courage, mais ils sont enfin prêts à témoigner. Et il a été... Il a été témoin du cambriolage. Je vous offre une exclue.
Regardez sur rtl.fr, allez-y.
Des deux seuls témoins du cambriolage. Snatch, Roméo, bonsoir. Vous étiez tous les deux sur, sur les lieux, dans l'appartement. Qu'avez-vous ressenti au moment où cet inconnu est entré dans votre domicile? Bon, là, c'est classique, c'est la phasie traumatique. Bon, ils trouvent pas les mots. Peut-être, peut-être Roméo...
On va essayer avec l'autre. Hein. Ils sont beaux, ces chats.
Ils sont beaux. Oui, ils sont
très beaux. Ah, vous leur apportez des croquettes aussi.
Ouais, ils ont des croquettes, ils ont tout. Voilà. Alors,
tu nous as fait un Covid mental. Maintenant, il y a un problème.
C'est la question suivante. Hein. Vous devez me demander
si... D'ailleurs, Philippe, vous n'avez rien récupéré de ce qui a été volé? Rien du tout? Rien?
Que va? Hommage à Cadmerade. C'est Omar Radad qui est complice de mon cambrioleur. Bon, on lui a mis un meurtre sur le dos, on peut bien lui foutre un cambriolage. Alors, mon chat accuse un arabe, mais c'est normal, puisqu'il fait toujours la sieste devant CNews, et il est fan de Jean Messia. Jean Messia.
Ah, oh, voilà. Jean Messia.
Bah, attention,
ah, oui.
Je suis en contrôle continu. Ouais. Mon passage ne se décidera pas sur cette vanne.
Non.
Ce sera sur la moyenne
de l'année.
De l'année, voilà. Ouais. Ah, lui, il est venu aussi, l'autre, pour...
Il est venu avec ses chats.
Deux chats.
Je suis très, très inquiet. Je suis très, très inquiet. RTL.fr. Vous baissez pas comme ça votre slip. Oh là là, la cabrière.
Voilà, c'est
Roméo. Roméo, on l'a connu.
Ah, il est beau celui-là.
Mais on l'a connu tout petit.
Il a grossi.
Il était venu nous voir.
Ok.
Voilà.
Voilà.
Je fais manger les chats. C'est une émission animalière, 30 millions d'amis.
Pauvre bébête. Allez, merci. Bonjour, vous viendrez avec votre hérisson si vous voulez.
Ah, ben j'essaie pour la semaine prochaine. On va essayer un dauphin.
Oui, on va remettre un peu de sens dans tout ça dans un instant. Merci Philippe. Il a 16 ans. Il est Omar Sy jeune dans la série Lupin sur Netflix et il est plus que convaincant. Mamadou Haïdara est l'invité d'RTL Soir. C'est tout de suite en direct.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto,
RTL Soir.
Avec 70 millions de personnes qui ont regardé la saison 1, Lupin est devenu plus qu'une série, un phénomène. Alors que la saison 2 vient de sortir sur Netflix, Mamadou Haïdara est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Mamadou Haïdara.
Merci, bonsoir.
J'imagine que nos auditeurs se demandent, mais c'est qui Mamadou Haïdara? Alors déjà, dans la série, c'est qui? Vous jouez quel rôle?
Hassan Diop, Omar Sy en plus jeune, si vous voulez.
Omar Sy quand il était enfant et adolescent. Adolescent.
Exactement.
C'est ça. Hein. Et dans la vraie vie, vous êtes qui alors, vous?
Un jeune lycéen... qui fait ses études et d'un coup, on me propose un casting et bam, j'y vais. Et
ça vous tombe dessus, quoi.
Exactement.
Et comment on passe de la vie tranquille de lycéen à Alfortville au rôle d'Omar Sy jeune?
Ça change beaucoup, quand même.
Oui, mais comment ça, qu'est-ce qui se produit? On vient vous chercher, on vous dit, tiens, viens me voir, toi ou...
Non, on vient me voir, on me dit, j'ai un casting pour toi. Je vais vous raconter l'histoire en vrai.
Ouais, tant qu'à faire.
Ouais, directement. Alors... J'habitais dans une cité qui s'appelle Gagarine.
Ouais.
Et elle est en destruction. Il y avait une équipe de tournage dessus qui tournait un film.
À Ivry?
Ouais, à ouais. Ivry. Et du coup, la dame, elle vient me voir parce qu'elle avait besoin de figurants. Et du coup, moi, je vais avec mes potes et tout. Et je ramène mes potes en tant que figurant. Et je me suis oublié moi-même, du coup, de remplir les feuilles et de lui donner.
Ah!
Ouais.
Mais vous n'étiez pas inscrit?
Non.
Donc vous n'avez pas été figurant dans Gagarine?
Non.
Non.
J'ai revenu le lendemain et elle m'a dit non, c'est trop tard. Et elle m'a dit quand même, laisse-moi tes coordonnées. J'essaie de faire un retour, genre. Et quelques mois après, deux mois...
Vous y pensiez encore ou pas? Vous disiez un jour, ils vont me rappeler ou...
Non.
Non, pas du tout.
Non.
Ouais.
Non.
Et alors
revenu... Ouais, bah, du coup, elle est revenue me voir deux mois après, à peu près. Et elle m'a dit, j'ai un casting pour toi, si tu veux y aller, tu vois, si tu vas pas. C'est comme ça.
Et ça consistait en quoi, le casting? Vous faisiez quoi?
Bah, de base, moi, je me disais, je peux y aller, en vrai. Donc, ça veut dire, j'y vais et... Je savais pas que c'était pour Lupin. Et ça veut dire, j'y vais, et la dame qui s'occupe du casting, elle me dit de faire la scène de la piscine. Elle me dit, tu fais une scène où t'es intimidé et tu vas aller voir la femme là-bas.
Il y a une fille qui est au bout de la piscine. Exactement. On voit la scène dans la série, hein, dans la saison. Hein, ouais,
exactement. Et après, du coup, moi, je le fais, du coup, je le fais en naturel. Elle m'a dit, reste naturel, et voilà. Parce que je lui ai dit, je faisais pas de théâtre, rien.
Et vous étiez beaucoup à passer ce casting ou pas, vous savez?
Ouais, quand même, il y avait du monde. Ouais.
Et comment vous avez appris que vous étiez pris, que c'était vous, que vous alliez jouer?
Elle m'a appelé 2-3 jours après.
Et vous êtes dit quoi à ce moment-là?
Je me suis dit, c'est bizarre.
Bizarre?
Ouais.
Pourquoi c'est bizarre?
Bah, j'ai jamais fait de théâtre, pas de cinéma, c'est ça. C'est bizarre.
Mais là, vous êtes dit, ça y est, je suis comédien, à moi Hollywood, à moi les Oscars ou...
Je me suis dit, bah, si c'est une expérience à tester, je peux la tester en vrai, ça me dérange pas. Si je peux la tester, je la teste.
Et le fait de jouer le rôle d'Omar Sy plus jeune, ça met une petite pression supplémentaire ou pas ou...
Bah non, parce que dans ma tête, je me suis dit, si ils m'ont pris pour cette série-là,
ouais,
c'est que j'ai le potentiel en vrai.
Ouais. C'est vrai que vous avez le potentiel. Et vous le prouvez d'ailleurs. Ouais. Et le tournage, ça s'est passé comment? C'est flippant quand on arrive? Vous vous dites, vous n'avez pas fait de cours de théâtre, vous n'avez pas fait de comédie. Comment ça s'est passé?
Non, avant les tournages, j'étais genre le premier jour, avant le premier jour, je me disais genre... ça va aller, ça va aller. Et quand je suis dans le camion du régisseur, j'y vais sur l'équipe de sur la, le plateau de tournage, je me dis, ça va être chaud.
C'est vrai?
Et je me dis, ça va être chaud. Et après, ça va, c'est passé en vrai. J'ai fait le premier jour, le deuxième jour, ainsi de suite. Et après, c'est passé crème.
C'est passé crème. Vous êtes à l'aise hein, dans la série. Vous dites quand même, allez vous faire foutre madame à Nicole Garcia. Hein, c'est facile à jouer des scènes comme ça, parce que c'est quand même quelqu'un, Nicole Garcia, dans le monde du cinéma.
Ouais, c'est quelqu'un. Mais ça va en vrai. Ça va.
Ouais, ouais. Ouais. Et votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, comment ils ont vécu tout ça?
Bah, ils savaient même pas que. Enfin, personne ne savait que la série elle allait autant buzzer.
Ouais. Ah, c'est pas qu'elle a buzzé, c'est qu'elle a 70 millions de spectateurs dans le monde pour la saison 1.
Mmh, exactement. Et du coup, ma famille est super fière. Hein.
Ouais.
Super fière.
Mais du coup, vous avez regardé les épisodes, vous êtes mis devant la télé tous ensemble, vous avez regardé tous ensemble
Tous ensemble ouais. Devant les écrans et on regardait ensemble.
Et alors, quand vous étiez plus le track là que pendant le tournage ou pas?
Ça dépend de la scène de la piscine. Quand j'étais chez moi.
La scène de la piscine, vous l'embrassez la fille, hein?
Ouais.
Ouais. Et alors, comment?
Ah, c'était difficile à digérer devant les parents.
Comment vous avez fait?
Toilette.
Pardon?
J'ai couru aux toilettes.
Ah, vous êtes allé vous cacher aux toilettes pendant que la scène passait?
Exactement.
Et après, quand vous êtes ressorti, vous en dites quoi?
Non, ils m'ont regardé. Je me suis justifié.
Ça vous a changé ce succès ou pas?
Ouais.
Ça a changé quoi pour vous?
Bah, tout en vrai, dans la rue, les réseaux sociaux.
Ouais.
Tout. Tout change du jour au lendemain, tu vois, il y a quelqu'un qui vient te demander une photo. Et même là, j'étais en bas,
ouais.
Il y a un gars qui allait me demander une photo. Et je lui dis, je finis et j'arrive.
Et vous lui dites, patiente mec, j'ai une interview,
non,
après je reviens.
Non, j'y arrive.
Et vous n'avez pas peur de prendre la grosse tête, non?
Non, je sais que je vais prendre la grosse tête.
Pourquoi?
Parce que c'est moi, je sais.
C'est vrai? Ouais. Et vos potes, vos copains, vos copines, ils ont changé avec vous ou pas?
Non.
Du tout? Il n'y a pas des nouveaux amis? Il n'y a pas de... Oh, en fait, t'es sympa.
Non, j'accepte pas de nouveaux amis.
Ah oui, d'accord. Pieds sur terre quand même. Hein. Du coup, vous donnez-vous des conseils à Omar Sy maintenant? Comment ça se passe?
Non.
Non?
Jamais. J'ai pas encore le niveau pour lui donner des conseils.
Pas encore le niveau?
Pas encore.
Vous êtes proche ou pas? Vous êtes parlé? Parce que, évidemment, par définition, puisque vous jouez Omar Sy quand il est plus jeune, à Saint Diop, dans Lupin, bah, vous n'avez pas de scène ensemble. Donc, vous n'avez pas tourné ensemble, j'imagine.
Non, on n'a pas tourné ensemble, mais. On s'est vu sur le tournage une fois, on a réussi à parler. Et du coup, il devait aller tourner. Ça veut dire que je l'ai revu après le tournage dans ma ville.
Ouais.
On a super bien parlé et voilà.
Vous avez parlé de quoi? Vous avez donné des conseils?
C'est confidentiel.
Oh, pop. Il n'y a rien qui est racontable?
Ce qui est racontable, c'est... Ouais, il m'a donné des conseils. Il m'a juste dit, genre, si je veux continuer dans ce monde-là, je profite de ma jeunesse, mais dans le bon sens.
Ouais.
Pas dans le mauvais genre.
Ouais.
Et quoi? Je m'accroche.
Vous avez envie de continuer dans ce milieu-là?
Ouais.
Ouais. Parce que j'imagine que tout ça, ça a dû modifier la liste de vos projets dans la vie, non?
Bah ouais, parce que déjà, je suis à l'école et j'avais pas en tête d'être dans ce monde-là. Ça veut dire que j'aime beaucoup ce monde-là et si je peux continuer dedans, bah j'y vais.
Là, vous rentrez en première en septembre, c'est ça?
Exactement. Ouais.
C'est facile dans sa tête de concilier les deux et de continuer à rester concentré sur l'école, sur le lycée, tout ça ou...
Bah en vrai, dès le début, si t'arrives à gérer...
Ouais.
Tu vas réussir à gérer toute ta vie, je pense.
Vous êtes incroyablement zen, hein. C'est fou ça.
Ouais, c'est fou.
C'est une question. Vous avez toujours été comme ça, posé, calme, tranquille.
J'ai toujours été comme ça.
Ouais. Ouais. Il y aura une saison 3 hein, de Netflix, de Lupin.
Ouais, c'est la partie 3.
Et vous la tournez quand d'ailleurs?
Je sais pas. Il n'y a pas encore de date de tournage. On verra.
Et vous avez vu déjà des propositions pour d'autres films, pour des téléfilms ou pas? Vous avez
pensé? J'ai d'autres projets en cours, mais c'est confidentiel.
Non, mais arrêtez, non, Omar Sy, c'était confidentiel. Non, ok, mais ça tout ne peut pas être confidentiel. Là. C'est du cinéma?
Oui.
C'est de la comédie?
Oui.
C'est du premier rôle?
Peut-être.
C'est vrai? Ouais. C'est pour quand?
Je sais pas.
C'est avec qui?
Je sais pas.
Il dira rien, c'est fou. Il paraît que vous adorez le foot.
Exactement.
C'est vrai? Vous êtes supporter de quelle équipe, vous?
PSG.
PSG? J'imagine que vous avez regardé le match hier. Vous la sentez comment, l'équipe de France, pour l'Euro?
Attends, je suis perdu. Vous me parlez du PSG après?
Non, je vous demandais quelle équipe vous étiez supporter. Ouais. Vous connaissez un peu les joueurs du PSG ou pas, non?
Bah oui.
Vous êtes allé les voir? Non, mais personnellement?
Non, pas personnellement.
Non, pas encore. Ils vont demander à vous rencontrer, à mon avis, bientôt.
J'espère.
Non. Et l'équipe de France, alors vous la voyez comment pour cet Euro?
Moi, je sais qu'ils vont gagner.
Ils vont gagner l'Euro?
Ouais.
Ah ouais, carrément.
Je suis serein.
Oh, c'est fou ça. Il est serein, il doute de rien, il est doué, il est brillant, il s'appelle Mamadou Haïdara. Il jouera bientôt dans un film avec...
Trois petits points.
Bah, il ne dira pas. En tout cas, il est très sympa d'être venu dans RTL Soir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Lupin saison 1 et désormais saison 2, c'est sur Netflix en attendant la saison 3. Merci, bonne chance et à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Demain vendredi, ce sera autre salle, autre ambiance, anniversaire du Premier ministre Jean Castex qui mettra 56 bougies sur son gâteau. Vous avez donc 40 ans d'écart avec Jean Castex. Vous avez des points communs sinon ? Non, ok. Et comme Julia Molcou adore les anniversaires, elle a décidé de célébrer les gens ce soir dans la culture de l'actu. À tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Demain, nous serons le vendredi 25 juin. Le 25 juin, c'est l'anniversaire du Premier ministre Jean Castex. Alors, Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Comme vous l'aimez beaucoup, avec un peu d'avance et à votre façon, vous avez choisi de lui souhaiter un bon anniversaire. Et votre façon, c'est de mettre les gens dans la culture de l'actu.
Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage.
Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1600. Est mort le 13 avril 1695, principalement connu et reconnu pour ses fables, considéré encore aujourd'hui comme l'un des monuments de la littérature française et dont les morales sont pour beaucoup gravées dans nos esprits. Tel est prix qu'il croyait prendre, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ou encore, ma préférée, on a souvent besoin d'un
plus petit que soi, le lion et le rat.
Robin avec Petit Jean au bois se promène, ils sont vent le cœur content et devise gaiement.
Vous vous souvenez de Petit Jean ?
C'est moderne, Jean.
Petit Jean, c'est le meilleur ami, le plus fidèle compagnon de Robin des Bois. Et tous les deux luttent contre la méchanceté du...
Prince Jean.
Oui, du prince Jean.
Je connais mes classiques.
Bravo. Alors à l'inverse, le Jean qui vient maintenant était vraiment un prince.
Moi, je défendrais très très violemment l'idée que la littérature, c'est aussi un divertissement. C'est un mélange de scandale, de défi, de pornographie. Mais il faut que tout ça soit très, très habilement dosé.
Jean d'Ormesson était donc né en 1925, normalien, journaliste, romancier et académicien, mort en 2017 à l'âge de 92 ans.
Il était formidable. Franchement, avoir eu la chance d'interviewer Jean d'Ormesson, c'est un truc dans la vie. Voilà, continuez.
Mais moi, je n'ai pas eu cette chance, mais je suis contente que vous l'ayez eu. Vous savez, il avait écrit plus de 40 ouvrages, mais peut-être que vous ne savez pas, Thomas, et ce que le public ne sait pas non plus, c'est que sur la fin de sa vie, Jean d'Ormesson a embrassé une courte carrière d'acteur. Dans Éloge de l'amour de Jean-Luc Godard ou encore dans Les saveurs du palais de Christian Vincent, où il jouait le président de la République. Bon, alors vous allez me dire, à chaque fois, Julia, c'est quand même des tout petits rôles. C'est vrai. Il faut dire aussi, Thomas, que des gens au cinéma, des grands gens, on en comptait déjà quelques-uns.
Jean Gabin Alexis Moncorgé. Votre âge ? 55 ans passés, je vais sur ma 56e année et qualité comédien.
Pour faire connaissance, mon cher Jean Carmé, je vais me permettre de te poser quelques questions auxquelles je souhaite que tu me répondes sans phare.
Alors vous aurez peut-être reconnu, enfin oui, vous aurez reconnu en fait.
Jean Gabin, Léon Zitrone donnait son nom au début.
Exactement, il était interviewé par Léon Zitrone en 1959 et puis ensuite c'était Jean Carmé qui s'interviewait lui-même. Mais on pourrait aussi citer Jean Dujardin.
Je suis vraiment un joueur au cinéma, il faut que je joue. Dès que je dis, dès que je suis enfermé dans quelque chose, alors là ça va plus.
Si
je
joue, encore Jean Rochefort.
Ça suffit, vous avez assez bouffé, il y a tout de même des limites, allez hop.
Ou encore, bien sûr, Jean Reno.
Comment fais-tu pour vivre dans un si pitoyable logis ? C'est une villette de manants.
Cousin, je vous en prie, c'est une petite bicoque sans prétention, d'accord ? Mais très bien conçu.
Et dans la chanson, alors ?
Ah bah des gens tout court, il y en a. Alors, je parle évidemment pas des Jean-Michel ou des Jean-Jacques. Mais tenez, par exemple, il y a Jean Sablon qui regrette que vous passiez sans le voir.
Ouh, j'y passais sans me voir. Même me dire bonsoir.
Il y a évidemment Jean Ferrat qui aime à perdre la raison.
Aimer à perdre la raison. Aimer à n'en savoir que dire.
Et puis bien sûr, il y a l'unique Jean Schultes.
Je veux vous devez vous m'aimer, mais pas moi. Moi je veux.
Tous les soirs, je regrette de ne pas nous imprimer les paroles.
Confidence pour confidence.
Moi, je regrette que vous chantiez.
Quel bon camarade.
Elle est vraiment top, cette chanson, comme votre chronique d'ailleurs. Et dis donc, Julia, t'en as parlé à Jean de cette chronique sur les gens ?
À Jean Castex ?
Bah Jean, mais non, Jean-Jacques Goldman. En fait, son nom de famille, c'est Jacques Goldman. On va écouter celle-là, par exemple.
Exactement.
C'est pas vrai. Non, j'avais oublié.
Ouais. Les gens pensent qu'il s'appelle Jean-Jacques, mais c'est une erreur. Ici, demain, vous faites une chronique sur les Claude, il s'appellera Claude Jean-Jacques Goldman. Ce qui est bien, c'est son adaptabilité.
Ça s'arrange pas, en revanche.
Non, ça s'aggrave.
À tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté.
Et puis, bon anniversaire quand même à Jean Castex, du coup, demain.
Mais évidemment, j'espère qu'il est sensible à notre cadeau.
je pense particulièrement, j'imagine.
Peut-être en même temps,
à nos actes manqués pour un Premier ministre, ça peut avoir un sens d'édito politique.
Tous ces mots que l'on trop fait rimer qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés. Oh, à nos actes manqués.
Merci Julia Molcou.
Merci Thomas.
Et c'est la météo.